nous inclinons dans la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous nous prosternons en ta présence, nous te bénissons du fond de nos cœurs et nous adorons ton saint nom. D'éternité en éternité, tu es Dieu. La justice et l'équité sont les bases de ton trône. Tu as créé les cieux et la terre et tu les maintiens aujourd'hui encore par ta main puissante. Tu en connais toutes les créatures et tu tiens dans ta main nos destinées et nos cœurs. Dieu saint, toi qui habites au plus haut des cieux, rien n'échappe à ton regard. Tu observes toutes les créatures et tu considères avec faveur les cœurs brisés et contrits. Aussi, venons-nous ce matin avec humilité devant toi, avec le sentiment de notre profonde misère. Nous te supplions d'avoir pitié de nous qui sommes pécheurs. Nos fautes mettent une séparation entre nous et toi, et nos péchés nous cachent ta face, et le tumulte de nos passions couvre ta voix. Oubliant que nul ne peut servir de maître, nous amassons des trésors sur la terre. Nous agissons pour être vus des hommes. Nous nous aimons nous-mêmes. De choses périssables et vaines, nous nous sommes fait des idoles que nous adorons dans le secret de nos cœurs. Nous avons oublié que toi seul veux être notre Dieu, que tu es un Dieu jaloux. Mais Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour nous pardonner, ni ton oreille trop dure pour entendre nos cris et notre repentance. En nous tournant vers toi ce matin, nous nous humilions sincèrement pour le mal que nous avons pensé, que nous avons dit et que nous avons fait. Toi qui es bon et qui nous aimes, nous te supplions d'étendre sur nous ton invisible main pour nous relever, nous consoler, nous purifier et nous bénir. Donne-nous de marcher devant toi d'un pas ferme, la tête haute, tous les jours de notre vie, dans l'amour et le service de Jésus-Christ notre Seigneur. Puisque nous sommes venus ici pour chercher la force, la sagesse et la paix dans les instructions de ta parole, ne permets pas qu'elles soient rendues vaines par notre confiance en nous-mêmes ou par notre indifférence, notre incrédulité. Éloigne de nous les distractions qui nous troublent. Fais taire en ce moment les voix qui nous empêcheraient d'écouter la tienne et veuille rassembler les esprits dissipés afin qu'ils soient tout entiers au culte que nous voulons te rendre par Jésus-Christ notre Seigneur. Sois avec celui qui annoncera ta parole ce matin, sois avec nous qui l'écouterons. Sanctifie-nous par ta vérité et amène-nous à ton salut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, par lequel nous t'adressons notre prière. Amen.
Amen. Je vous invite maintenant à la lecture du texte de la prédication de ce matin. Ouvrez donc vos Bibles dans le livre d'Esther et nous lirons ensemble le chapitre 8. Ce même jour, le roi Assuérus fit don à la reine Esther de la maison de Haman, adversaire des Juifs, et Mardochée se présenta devant le roi, car Esther avait révélé ce qu'il était pour elle. Alors le roi retira le sceau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardochée. De même, Esther plaça Mardochée à la tête de la maison de Haman. Esther ne s'en tint pas là et reprit la parole devant le roi, en tombant à ses pieds. Elle pleura. Elle éveilla sa pitié pour qu'il détourne la méchanceté de Haman, la Gagite, et le projet qu'il avait conçu contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Alors Esther se releva et se tint devant le roi. « Si le roi le juge bon, dit-elle, et si j'ai obtenu sa faveur, si la chose convient au roi, et si je lui plais, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils de Hammedata, la Gagite, et rédigées dans le dessein de faire périr les Juifs de toutes les provinces du roi. Comment pourrais-je donc rester indifférente à la vue du malheur qui menace mon peuple? Oui, comment pourrais-je rester indifférente à la vue de la disparition de ma lignée? » Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, « Voici que j'ai donné à Esther la maison de Haman, et lui on l'a pendu à la potence pour avoir porté la main sur les Juifs. Vous, maintenant, écrivez au nom du roi ce qui vous paraîtra le plus favorable aux Juifs, et scellez-le du sceau royal. » Car un texte écrit au nom du roi et scellé du sceau royal est irrévocable. On convoqua les secrétaires royaux ce même jour, qui était le 23 du troisième mois, qui est le mois de Sivan, et l'on consigna toutes les dispositions de Mardochée pour les Juifs à l'intention des satrapes et des gouverneurs, des princes de toutes les provinces de l'Inde à l'Éthiopie, 127 provinces, à chaque province dans son écriture, à chaque peuple dans sa langue, aux Juifs en particulier dans leur écriture et dans leur langue. On écrivit les lettres au nom du roi Assuérus. On les scella du sceau royal et on les envoya par l'intermédiaire des courriers à cheval, montant des purs sangs à Actran sélectionnés. Le roi autorisait les Juifs de toute ville à se rassembler pour défendre leur vie, à exterminer, à tuer et à faire périr toutes les troupes populaires ou provinciales qui les persécuteraient, y compris les enfants et les femmes. Ils pouvaient les piller pour en prendre du butin. Ceci en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13 du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Il y avait une copie du texte pour communiquer à chaque province l'édit qui devait être rendu public parmi tous les peuples, afin que les Juifs se tiennent prêts ce jour-là à tirer vengeance de leurs ennemis. Les courriers montant des purs sangs à Actran sortirent à bride abattue par ordre royal, et l'édit fut communiqué à Suse, la capitale. Mardochée se retira de la présence du roi en vêtements royaux, bleus et blancs, avec une grande tiare d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse était en liesse et en joie. Les Juifs étaient rayonnants de joie, d'allégresse et de triomphe. En chaque province, en chaque ville, en tout lieu atteint par l'ordre et l'édit du roi, il y eut parmi les Juifs joie et allégresse, festin et jour de fête. Beaucoup se firent Juifs parmi les gens du pays, car la terreur des Juifs les avait saisis. Donc le texte de la prédication de ce matin, que le Seigneur bénisse sa parole prêchée, il bénisse aussi sa parole enseignée aux enfants dans quelques instants. Alors la fois passée, au chapitre 7, nous avions découvert ensemble l'accomplissement des premiers véritables actes de justice de ce livre, de la part d'Esther et de la part du roi Assuérus. Il s'agissait de la dénonciation, de la condamnation et de la pendaison d'Aman l'impie. Et nous avions vu en effet, dans un premier temps, que le roi, se sentant certainement redevable à l'égard d'Esther du fait de sa grande fidélité, eh bien lui réitérer son amour et sa fidélité lui aussi à son égard en lui promettant pour la troisième fois jusqu'à la moitié de son royaume. Et nous avions ensuite découvert la demande de la reine, enfin, demande de la reine pour son salut et celui de son peuple, demande exprimée avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'humilité. Et nous avions noté ceci, c'est qu'en quelques mois à peine, une situation qui était pourtant jusque-là inextricable se trouva soudainement solutionnée grâce à l'œuvre providentielle de Dieu. Puis, nous avions dans la suite logique de cette dénonciation et de ce solennel appel à la justice, dit quelques mots sur la non-réaction d'Aman, qui, surpris, terrassé, resta bouche bée, car sa plus fidèle alliée, jusque-là, semblait-il, pour lui en tout cas, eh bien, venait de le trahir, ou en tout cas venait de le dénoncer. Et il demeura donc incapable de se défendre. Et enfin, nous avions, pour terminer, évoqué la grande colère du roi à l'égard de son premier ministre, colère qui signifiait l'arrêt de mort de celui-ci. Et le chapitre se terminait par la mort d'Aman pendu au bois. Et ce matin, donc, dans ce chapitre 8, et dans la suite logique du chapitre précédent, eh bien, nous découvrons les implications et l'ampleur de la défaite de l'ancien premier ministre. Car non seulement celui-ci vient de perdre la vie, mais sa maison est également livrée aux mains de ses ennemis d'autrefois. Quant à l'acte de génocide officiel du peuple juif, dont il était le principal instigateur, dont il était l'auteur, eh bien il est dénoncé et contrecarré. Et surtout, découvrons dans ce passage que que l'homme qu'il a haïssé par-dessus tout, Mardoché, qui empêchait Haman de vivre, bien qu'étant si riche et bénéficiant de tant de privilèges, eh bien cet homme est nommé par le roi premier ministre à sa place. Il s'agit donc, dans ce chapitre 8, d'une défaite absolument totale, d'une défaite indiscutable. Et par voie de conséquence, si on le prend d'un autre côté, eh bien il s'agit d'une grande victoire, il s'agit d'une libération miraculeuse pour les opposants d'Haman, qui sont Esther, Mardoché et bien entendu tout le peuple juif de l'Empire. Et une fois encore, ce matin, pour bien comprendre la portée de ce texte, eh bien, nous devons de l'étudier en le considérant dans l'ensemble du livre, mais nous devons également de l'étudier en le considérant dans l'entier de la révélation écrite, et particulièrement de l'histoire de la rédemption. Ce chapitre est, sous certains aspects, une préfiguration de la victoire totale de Christ sur l'ennemi. Nous découvrons dans ce chapitre comment il va piller la maison de ce dernier, comment il va annuler l'acte de condamnation de son peuple et recevoir en récompense de son œuvre la gloire que Dieu réserve aux vainqueurs. Tout ça en préfiguration dans ce chapitre 8. Le titre de la prédication de ce matin est celui-ci, une victoire totale. Une victoire totale. Nous aurons trois points. Le premier, une maison pillée. Le deuxième, un acte annulé. Et le troisième point, un homme honoré. Et tout d'abord, donc, le premier point, une maison pillée. Ce sont les versets 1, 2 et 7. Alors, comme je viens de l'esquisser rapidement, Haman, en tant que traître à l'Empire, continue de payer, quoique mort, le prix qui est réservé au félon. Comment ? Eh bien, tout son propre patrimoine est saisi par le roi. Il revient directement au roi et celui-ci le redistribue en l'offrant en particulier à la reine Esther. Et on peut tout à fait imaginer que ce don de la part du roi à son épouse est une sorte de dédommagement ou de compensation matérielle de toutes les souffrances que la reine a dû supporter, a dû endurer à cause d'Haman. Alors, entre la moitié du royaume qu'il lui proposait et les biens d'Haman, il y a une grande différence. On voit Assuérus, un homme toujours pas près de ses sous, mais disons en tout cas plein d'intelligence quant à la gestion de ses biens, il préfère donner tous les biens d'Haman que la moitié de son royaume. Mais Esther ne le lui a pas demandé, vous me direz. Donc voilà, on peut imaginer qu'il y a une compensation matérielle dans ce geste. Et Esther, quant à elle, en gardant la propriété de ce qui vient de lui être donné, eh bien, va de son côté nommer Mardoché gérant ou régisseur de ses biens. Et lorsqu'on considère donc comment ces richesses passent si rapidement d'Haman au roi, puis du roi à Esther, pour enfin passer en quelque sorte d'Esther à Mardoché, eh bien, on peut parler ce jour-là d'un jour de redistribution. En effet, Haman, de son côté, a gagné la potence qu'il avait pourtant prévue et préparée avec tant de soin et de méchanceté pour Mardoché. Quant à ce dernier, eh bien, lui, il a reçu le même jour les grandes richesses que son bourreau s'était mises de côté avec beaucoup de patience, beaucoup de ruse et surtout beaucoup d'égoïsme pour sa propre jouissance. Et on peut dire que Haman et Mardoché sont en quelque sorte la preuve visible de ces paroles du Seigneur Jésus qui disait un jour à ses disciples « Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Mais ce qu'il me semble, dans ce chapitre 8, et surtout donc lorsqu'on lit ces deux premiers versets, mais aussi le verset 7, c'est que l'on doit comprendre cette mort d'Haman, suivie de la confiscation de ses biens, comme étant une préfiguration de la victoire totale de Christ sur l'ennemi. Victoire totale par laquelle il a vaincu Satan, par laquelle il a non seulement vaincu, mais il a également pillé ses biens. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus proclama par avance dans l'évangile de Marc, dans celui de Matthieu et de Luc aussi, mais je lirai le verset de Marc, lorsqu'il dit ceci. « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme, alors il pillera sa maison. » Lorsque Jésus prononce ces paroles, eh bien c'est tout de suite après avoir guéri un démoniaque qui est aveugle et sourd. Et ce qu'il veut dire à ses auditeurs par cette parole, c'est que s'il a délivré cet homme des démons qui le possédaient, c'est parce qu'il est plus fort que ceci. Et par voie de conséquence, qu'il est plus fort que Satan, que le diable, qui les dirige. Et l'homme fort dont il est question, c'est le diable. Mais ce que Jésus veut également aider à comprendre ses auditeurs, c'est que pour piller les possessions du diable, eh bien, il doit au préalable mener un combat contre ce dernier. Et que celui-ci résistera avec rage à toutes les tentatives de le priver de ses possessions jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Et ce n'est qu'au moment où il sera vaincu qu'il ne pourra plus empêcher Christ de piller sa maison. Et celui-ci la pillera objet après objet, pièce après pièce. Lorsque Jésus fait cette déclaration, il veut surtout amener ses auditeurs à comprendre que ce combat entre lui et le diable est déjà commencé. Et que l'ennemi a déjà commencé à reculer, comme ils viennent de le constater dans la délivrance de ce démoniaque. Et il veut aider ses auditeurs à comprendre que la victoire totale et définitive va arriver bientôt, au terme d'un combat terrible. Et cette victoire sera alors suivie du pillage des biens de l'ennemi. Alors peut-être que vous posez la question de vous dire, mais de quel pillage s'agit-il ? Eh bien, Jésus est en train d'annoncer que par sa victoire prochaine à la croix, par laquelle Satan sera définitivement défait, eh bien, il va arracher à son emprise un grand nombre d'âmes perdues, celles de son peuple, celles des élus, âmes qui étaient jusque-là sous la cruelle domination de l'ennemi. Et il va les transporter avec lui ensuite jusque dans la présence du Père, pour sa propre gloire, mais aussi pour leur propre joie. Et l'apôtre Paul nous parle de cette délivrance qui a été accomplie par Christ, de ce pillage donc de la maison de l'ennemi, lorsqu'il écrit aux Colossiens et aux Éphésiens ceci. Aux Colossiens tout d'abord, Colossiens 1:13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés et transportés. C'est comme l'idée d'être arraché d'un endroit pour être transporté à un autre. Et dans les Éphésiens, au chapitre 4, verset 8, il est écrit ceci, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs. » Ce dernier verset d'Éphésiens, que nous avions vu ensemble il y a bien des mois maintenant en arrière, nous rappelle ceci, c'est qu'après sa résurrection, Christ est monté dans la présence de son Père. Celui-ci l'a alors souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, ainsi qu'autorité et pouvoir sur tout l'univers. Mais surtout, ce que ce verset nous apprend, c'est qu'en arrivant ainsi au ciel, tel un général romain qui revient victorieux et triomphant de la guerre, eh bien il a emmené avec lui des captifs qu'il a arrachés à l'ennemi. Et ces captifs libérés, chers frères et sœurs, c'est nous. Les chrétiens, les élus que Dieu avait déterminé de sauver de tout temps, en envoyant ici-bas son Fils, afin de nous arracher aux griffes de l'ennemi. Mais ce qui nous caractérise, à la différence de la plupart des captifs, ce qui nous caractérise, c'est notre statut particulier. Si vous regardez le statut qui était celui de Ingrid Betancourt, certainement que notre statut est bien plus riche que le sien. Car notre statut de captif, ayant été arraché donc aux griffes de l'ennemi, et celui-ci, Paul écrit aux Éphésiens, « Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Voilà notre statut. Nous sommes en quelque sorte, chers frères et sœurs, si je puis m'exprimer ainsi, le magot de notre Seigneur, le fruit du pillage de la maison de Satan que Christ a vaincu. Mais comme l'écrit Paul, nous sommes des captifs particuliers car nous avons réellement été libérés d'un joug cruel. Et nous sommes aujourd'hui assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est une réalité dont nous devons nous souvenir journellement. Car même si nous sommes encore ici-bas sur la terre aujourd'hui, car c'est une réalité, puisque nous y sommes, nous nous voyons ici et nous vivons ici-bas, eh bien nous sommes aussi déjà dans les lieux célestes en Christ. Celui-ci nous représente, nous sommes réellement, spirituellement en lui. Celui-ci nous ouvre un libre accès à Dieu. Et nous pouvons donc dire que nous ne sommes plus prisonniers de l'ennemi. Nous ne lui appartenons plus. Et nous n'avons donc plus à vivre une vie chrétienne défaitiste, mais une réelle vie de victoire en tant que chrétien. Alors vous comprenez, chers frères et sœurs, ce matin, comment nous pouvons faire ce parallèle entre d'un côté cette mort d'Aman, l'ennemi mortel du peuple juif, pendu au bois, dont la maison et les biens passent ensuite aux mains de ceux qui l'ont vaincu, heureux de sa défaite parce qu'enfin délivré de son joug, et de l'autre côté, la victoire de Christ sur Satan à la croix. Victoire par laquelle il a lié l'ennemi, puis a pillé son royaume, nous délivrant un grand nombre de captifs qu'il a ensuite emmenés au ciel avec lui pour sa gloire et pour la plus grande joie de ceux qu'il a emmenés avec lui. Voilà une des vérités contenues par avance dans ce beau texte et qui devait préparer les Juifs qui lisaient l'Ancien Testament aussi à la venue du Sauveur, à une réalité du salut qui serait amenée par le Messie. Alors ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de continuer de découvrir une autre préfiguration de l'œuvre de Christ contenue encore dans ce texte. C'est le deuxième point, un acte annulé. Un acte annulé, ce sont les versets 3 à 6, puis 8 à 14. Alors, comme je viens de le dire, l'ennemi est certes vaincu, Aman j'entends, mais il reste à contrecarrer ses plans. Parce que si la ruine d'Aman est consommée, le plan qu'il a élaboré poursuit toujours son cours. Il y a une date qui a été définie, qui a été arrêtée, c'est un décret royal qui s'appliquera nécessairement. Et cette date, donc, arrête la mort et l'extinction totale du peuple juif. Le décret de mort des Juifs est toujours en vigueur, même si Aman est mort pendu sur le bois. Et devant l'urgence de la situation, nous voyons que Esther plaide une fois encore auprès du roi, elle se jette à ses pieds, elle se prosterne devant lui, elle pleure et intercède en faveur de son peuple. Et nous lisons au verset 6 en particulier qu'elle ne veut ni ne peut se désolidariser des siens, se désolidariser donc de l'avenir de son peuple. Et nous pouvons remarquer dans ce plaidoyer d'Esther au pied du roi Assuérus, qu'il est tout à fait dans l'esprit de Paul, bien des années plus tard, lorsqu'il écrira ceci aux Romains, à propos de son peuple. « J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Esther supplie donc le roi d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Et certainement qu'en suppliant le roi ainsi, elle est consciente du dilemme devant lequel elle place le monarque. Pourquoi ? Eh bien, en raison de la nature irrévocable du roi de Perse. Elle lui demande de faire tout son possible pour annuler une loi qui ne peut pas être annulée. Mais contre toute attente, une fois encore, cette démarche de la reine est couronnée de succès. Pourquoi ? Eh bien, parce que certainement, une fois encore, Dieu incline le cœur du roi. Il agit providentiellement dans la vie de cet homme, et comme nous l'avions lu, eh bien, le cœur du roi est comme un ruisseau dont l'Éternel peut changer le cours. Et Assuérus donne ainsi plein pouvoir à Esther et à Mardochée, afin qu'ils mettent tout en œuvre pour contrecarrer le précédent décret, le premier décret, celui d'Aman, qui condamne le peuple juif. Et nous lisons ainsi au verset 8 qu'Assuérus leur donne carte blanche donc pour publier ce nouvel édit qui donnera aux Juifs une possibilité de salut. Ce nouvel édit autorisera les Juifs, en quelque ville qu'ils soient, à se rassembler pour se défendre. Et plus que pour se défendre, même pour piller ceux qui auront voulu porter atteinte à leur vie. comme je vous le disais au début de ce deuxième point, cette action d'Esther et de Mardochée qui permettra de rendre inefficace la condamnation à mort du premier décret royal, devenant ainsi une source de salut pour les Juifs, eh bien ce deuxième décret, ou cette action d'Esther et de Mardochée, nous rappelle par avance un autre aspect de l'œuvre rédemptrice de Christ. Et c'est Paul qui présente ce deuxième aspect, lorsqu'il écrit ceci aux Colossiens. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Ce que Paul explique dans ces versets, c'est comment la mort de Christ sur la croix a dépouillé Satan, en lui ôtant la principale arme dont il disposait et par laquelle il tenait sous sa merci toute l'humanité, dont les élus. Et cette arme que Christ a ôtée à l'ennemi, c'était quoi? Eh bien, c'est cet acte dont il parle, et qui n'est autre que la loi divine, la loi morale de Dieu, cette loi sainte, juste et bonne, qui condamne le pécheur parce qu'il l'a transgressée. La loi de Dieu est en effet suffisante pour condamner tout homme au jugement et à l'enfer, car comme le dit l'Écriture, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ainsi, de la même façon qu'Aman avait en main, avant sa mort, puis ses alliés après lui, un édit royal qui lui permettait ou qui leur permettait de tenir à leur merci le peuple juif dans son entier, condamnant ce peuple à mort, eh bien, de la même façon, l'acte qui nous condamnait, la loi morale de Dieu que nous avions bafouée, était en quelque sorte entre les mains de l'ennemi, comme une pièce à conviction, comme un acte d'accusation par lequel il nous tenait sous son pouvoir et nous signifiait notre condamnation éternelle avec lui. Mais, un peu comme Paul le dit aux Éphésiens, mais, dans un langage imagé, l'apôtre dépeint alors Christ. Et il le dépeint comme s'emparant de cette pièce à conviction que le diable tient dans sa main. Comme s'emparant de cette pièce à conviction et la clouant avec lui sur la croix. Ce que Paul veut dire, c'est que Christ, lorsqu'il vint ici, accepta volontairement que le contenu de l'acte de condamnation de son peuple soit mis sur son compte. Et il accepta volontairement, non seulement que ce contenu de l'acte de condamnation soit mis sur son compte, mais de subir à la place de son peuple le plein châtiment qu'il méritait, satisfaisant ainsi pleinement la justice de Dieu pour lui, pour les siens. Et dès lors, par sa mort substitutive, donc à la place de son peuple, ayant satisfait à toutes les exigences divines de justice pour les siens, eh bien, Christ laissa tout à coup l'ennemi sans armes. En subissant la peine que méritait son peuple, eh bien, tout à coup, l'ennemi se retrouve les mains vides. L'acte de condamnation qu'il avait entre les mains pour le peuple de Dieu et pour tenir le peuple de Dieu sous sa domination ne valait plus rien puisque la peine avait été entièrement payée. Et c'est ainsi que désarmé, le diable ne pouvait plus se réjouir de tenir prisonnier le peuple de Dieu, ce dernier étant libéré. Et le diable ne pouvait non plus continuer de tourmenter en plaçant sous son nez, donc tourmenter le peuple de Dieu, en plaçant sous son nez cet acte de condamnation en disant « Regarde, tu es condamné, tu as transgressé la loi de Dieu ». Tu ne mérites qu'une chose, la condamnation éternelle loin de Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, pour refaire le parallèle avec ce chapitre 8, de la même façon, nous découvrons dans ce texte d'Esther que la parution de ce second décret royal rend le premier, qui condamnait à mort le peuple de Dieu, totalement inefficace. Puisqu'il offre miraculeusement au peuple juif une planche de salut, ils peuvent être sauvés. Et dès lors, les ennemis des Juifs ne peuvent plus faire pression sur eux, ni même se réjouir de leur mort prochaine. Mais bien au contraire, suite à la mort d'Aman, leur chef, qui a été pendu au bois. Suite à la parution de ce deuxième décret, eh bien, il se trouve tout à coup comme désarmé et sans pouvoir, et même dans la crainte. J'aimerais également rajouter ceci, c'est ce qui nous permet de voir encore dans ce texte une préfiguration de l'œuvre rédemptrice de Christ, c'est que selon le verset 9, le temps qui sépare les deux édits, le premier édit, celui d'Aman qui condamnait à mort les Juifs, et le deuxième qui va leur permettre de se défendre et qui va donc comme annuler le premier, eh bien le temps qui court entre les deux est de 70 jours. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que le chiffre 70 fait référence très souvent dans l'Écriture au temps de souffrance qui va précéder le temps de salut, de libération du peuple de Dieu. Et c'est ainsi que Jérémie va prophétiser 70 années d'exil avant le retour. Et c'est ainsi encore qu'il est question de 70 semaines dans le livre de Daniel, au chapitre 9, verset 24, je lis. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Ainsi donc, chers amis, ces 70 jours qui courent entre le premier et le second édit de libération, eh bien, sont une préfiguration de plus montrant que Dieu, à son peuple, que Dieu interviendra ici-bas pour le salut de son peuple en envoyant son Messie pour le libérer, pour libérer son peuple au temps qu'il a fixé par avance. Alors j'aimerais revenir quelques instants dans ce deuxième point à cette œuvre de Christ par laquelle, comme nous l'apprend Paul, il a cloué à la croix l'acte d'accusation qui nous condamnait. Et nous devons, de la même façon que nous devons nous rappeler quel est notre statut, assis à la droite de Dieu, fruit du pillage de Christ qui a vaincu l'ennemi, de la même façon que nous devons nous rappeler qui nous sommes en Jésus-Christ aujourd'hui, eh bien nous devons nous rappeler ce matin que pour nous chrétiens, il ne subsiste aucune trace de ce document qui nous accusait. Notre pardon, chers frères et sœurs, est complet. Et c'est ainsi que Satan, qui a été désarmé par Christ, nous concernant les chrétiens, ceux qui se sont repentis de leurs péchés, ont mis leur foi en Jésus-Christ, eh bien Satan ne peut plus nous intimider. Parce qu'il n'a plus d'acte d'accusation à brandir sous notre nez, plus aucun. D'ailleurs, Paul dans les Romains dit, en Romains 8, il nous dit que non seulement nous avons un avocat, mais en plus nous avons le juge qui est de notre côté. Il n'y a plus aucune condamnation possible. Et lorsqu'il tente de le faire, il ment. Lorsque l'ennemi vous assaille dans vos pensées et vous dit faillite, péché, comment Dieu peut-il encore t'accueillir? Il bluffe. Et nous ne devons donc plus nous laisser accuser. Cela ne signifie pas que nous n'avons plus à nous présenter devant Dieu pour confesser nos péchés. Mais nous n'avons plus à nous laisser écraser par le bluff de l'ennemi. C'est une des raisons pour lesquelles Luther, le réformateur, lorsqu'il était assailli dans ses pensées par l'ennemi, et entre autres dans le château de la Wartburg, il était en train de traduire la Bible en allemand, régulièrement l'ennemi l'assaillait dans ses pensées et lui présentait la longue liste des péchés qui le condamnaient. Et alors, c'est Luther qui l'écrit, celui-ci répondait, « Ce sont mes péchés, c'est vrai, mais il est écrit en travers, « Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et alors il prenait l'encrier et il le balançait à la figure de l'ennemi. Enfin, c'est une image. On dit même, on montre dans la pièce où il écrivait qu'il y a une trace d'encre, puis que c'est celle de l'encrier de Luther, bien sûr, elle est restée depuis 1500, je ne sais plus combien, jusque-là. Donc le réformateur, chers frères et sœurs, savait que devant l'œuvre de la croix, Satan est impuissant, totalement impuissant. Et dans ce sens, et lorsque l'ennemi vous attaque par ses doutes, lorsqu'il remet en question votre salut, eh bien résistez-lui et rappelez-vous des paroles de ce cantique de Martin Luther, on l'a souvent chanté ici. Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains point. Ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Eux tous, avec leur roi, tomberont devant toi, peuple fidèle. Pour vaincre le rebelle, il suffit d'un mot de la foi. Maintenant, je vous pose néanmoins cette question ce matin. Peut-être que pour la plupart d'entre vous, cet acte de condamnation n'existe plus. L'ennemi ne peut pas le brandir. S'il le brandit, il bluffe. Et vous n'avez pas à vous laisser accuser. Confessez vos péchés, revenez à Christ quand vous avez péché. Mais n'acceptez pas, si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes repenti, vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, et que vous avancez pas après pas, en tombant de temps en temps, certes, mais n'acceptez pas ces doutes. Néanmoins, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont encore sous cet acte de condamnation. Et la loi de Dieu est importante. Elle a un rôle pédagogique pour vous montrer votre misère, votre péché, et vous conduire à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Et ce matin, je vous dis comme le réformateur, eh bien, pour vaincre le rebelle, il suffit d'un mot de la foi, je crois. Se repentir de ses péchés et croire que Christ est votre sauveur. Le seul qui peut vous sauver de la condamnation à venir. Troisième point, un homme honoré. Ce sont les versets 15 à 17. Le moment où le peuple juif de Suse, en particulier de l'Empire, mais surtout de Suse, réalise réellement que Dieu est venu à son secours, c'est lorsqu'il voit Mardochée, au verset 15, sortir de la présence du roi vêtu d'un manteau royal, de couleur, alors ça dépend, bleu ou blanche, violette ou blanche, le violet et bleu étant assez proches. Il le voit sortir ainsi, magnifiquement vêtu de ce vêtement royal, une tiare d'or posée sur sa tête, c'était les couronnes de l'époque, et un manteau de byssus et de pourpre jeté sur ses épaules. Alors souvenez-vous, si Mardochée dans l'abattement est revêtu d'un sac symbolisé au début du livre la détresse et la condamnation des Juifs, eh bien maintenant ses habits, sa couronne et son manteau de pourpre représentent le triomphe de ce peuple. En effet, les vêtements et la couronne qui sont mis sur Mardochée représentent, sont un signe du rang extraordinaire que le roi vient d'accorder à Mardochée. Et ce que nous comprenons dans ce texte, c'est que Mardochée n'agit pas pour son propre compte, mais une fois encore, représente son peuple. Et dès lors qu'il a pu plaider sa cause quelque part, ou la cause de son peuple, devant le roi, et que le roi le revêt ainsi de ses attributs royaux, eh bien cela signifie que tous les Juifs de l'Empire sont libérés. La victoire de Mardochée symbolise, chers frères et sœurs, et proclame la victoire de tous les Juifs et tout ce qui en découle. Et je vous lis encore ce matin, nous découvrons donc une fois encore dans ce chapitre une préfiguration de l'œuvre de Christ. Car de la même façon que Mardochée fut honoré par le roi par ses luxueux vêtements et cette nouvelle responsabilité, après avoir vaincu dans l'humiliation jusque-là et risqué la mort, eh bien de la même façon, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous révèle ceci à propos de Jésus-Christ. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ce que nous devons encore dire, c'est que de la même façon que Mardochée représenta son peuple, dans le déshonneur et puis dans la gloire, eh bien, de la même façon, notre Sauveur nous représentait lorsqu'il vint ici-bas. Il est venu pour nous sauver, pour sauver son peuple. Et lorsqu'il marchait ici-bas dans la misère, eh bien, il nous représentait. Lorsqu'il est mort sur la croix, il nous représentait. Lorsqu'il est ressuscité, il nous représentait. Et maintenant qu'il est dans la gloire et dans l'honneur, il nous représente. Et il est écrit dans l'Écriture, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Et disons enfin pour finir, que de la même façon que la victoire de Mardochée symbolisait et proclamait la victoire de tous les Juifs sur la mort, et ce qui en découlait, bien de la même façon, la victoire de Christ symbolise et proclame notre victoire sur la mort. Je le répète, de la même façon que la victoire de Mardochée symbolisait et proclamait la victoire de tous les Juifs sur l'arrêt de mort qui avait été établi par Haman, eh bien, de la même façon, la victoire de Christ symbolise et proclame notre victoire sur la mort. Paul écrit ceci, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été englouti dans la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que lisons-nous ensuite ? Au verset 15, Mardochée sort donc en vêtements royaux. Oui, toujours au verset 15. Eh bien, nous lisons que toute la ville de Suse est alors en liesse et en joie. Rappelez-vous, au chapitre 3, l'édit d'Aman a apporté la tristesse dans la ville. Et maintenant, l'élévation de Mardochée transporte cette ville dans une réelle joie et un réel bonheur. Les Juifs, très certainement, mais aussi ceux qui les connaissaient, qui n'étaient pas Juifs, mais qui appréciaient ce peuple et qui n'avaient rien contre lui. Mais surtout les Juifs. Et l'auteur continue en écrivant qu'il y eut des festivités parmi le peuple juif, d'une extrémité de Suse à l'autre, ainsi que dans toutes les provinces et dans chaque ville. Cette victoire de Mardochée symbolisait donc et proclamait la victoire de tous les Juifs et ce qui en découlait. Alors, chers frères et sœurs, à l'instar de ces Juifs, libérés du joug de leur ennemi mortel, de la mort inéluctable qui les attendait, de la même façon que ces Juifs, donc libérés de cette mort et de ce joug, se réjouissent en voyant un de leurs sauveurs honoré par le roi, je parle de Mardochée, Esther les avait également sauvés, en tout cas avait agi pour les sauver, c'est Dieu surtout qui les a sauvés, et bien de la même façon que ces Juifs, est-ce que nous ne devrions pas, nous aussi, qui avons été libérés de la condamnation terrible qui pesait sur nous à cause de notre péché, qui avons été libérés de la tyrannie de Satan par l'œuvre de notre Sauveur, eh bien, ne devrions-nous pas, nous aussi, nous réjouir déjà en Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu dans la gloire? Et je vous pose la question ce matin. Comment se fait-il qu'alors que nous avons bénéficié d'un si grand salut, nous soyons au contraire si froids? Comment se fait-il qu'alors que nous avons été graciés de la mort éternelle, il ne s'agit pas d'une mort physique comme ce peuple juif, mais de la mort éternelle, loin de la présence de Dieu, en enfer, nous soyons si froids? Peut-être tout simplement, chers amis, parce que nous nous sommes habitués à ce salut. Très certainement parce que nous ne méditons pas suffisamment sur celui-ci. Nous ne prenons pas le temps de nous souvenir de notre Sauveur et de son œuvre. Et voilà la raison pour laquelle nos prières sont si pauvres. Voilà la raison pour laquelle nos cœurs sont si secs en semaine et le dimanche matin. Comment se fait-il, quand on a un moment de prière au début du culte, qu'on soit tous avec la bouche cousue? Alors, vous me direz, on n'est pas dans des conditions, on doit rentrer dans la présence de Dieu, on a besoin de temps. Mais le temps, on l'a déjà le matin. Ah, mais on a les enfants. On se lève tard. Mais ne pouvons-nous pas nous lever un tout petit peu plus tôt et prendre du temps pour nous souvenir de l'œuvre de notre Sauveur? Nous présenter devant lui, méditer toutes les grâces concernant le salut qu'il nous a accordé? Prendre du temps personnellement et peut-être en famille? La raison de cette froideur, la raison de ce manque de joie, eh bien, la raison de ces prières si pauvres, c'est que tout simplement, nous nous sommes habitués à ce salut, nous ne méditons pas celui-ci, nous ne prenons pas de temps. Et je vais être très clair, pour vous et pour moi, la véritable expression de notre piété devrait être celle de ce peuple juif. Eh bien, le contraire est par voie de conséquence anormal. Est un symptôme, quelque part, de mauvaise santé spirituelle. Ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, mais très certainement. Ce manque de joie est certainement un symptôme de mauvaise santé spirituelle. Je conclus, chers frères et sœurs, nous venons donc de découvrir ce matin, encore dans ce livre d'Esther, quelques éléments qui préfigurent l'œuvre rédemptrice et la gloire de Jésus-Christ. Nous avons vu tout d'abord comment, de la même façon que les biens d'Aman furent confisqués à sa mort pour être redistribués à ses ennemis, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu Satan, l'a lié et a pillé ses biens et nous a amenés avec lui jusque dans le ciel, dans la présence du Père éternel. Nous sommes assis avec Christ en Dieu. Et nous avons encore vu que de la même façon que l'édit de mort fut rendu impuissant par le nouvel édit, accordant ainsi une possibilité de salut au peuple juif, eh bien Jésus-Christ cloua sur la croix l'acte de condamnation qui nous condamnait à mort pour l'éternité, nous délivrant de la colère à venir. Et nous n'avons donc plus à craindre et à subir les assauts de l'ennemi. Et enfin, nous avons vu que de la même façon que Mardochée, représentant son peuple, fut honoré par le roi, mettant fin à l'humiliation et déclenchant une grande joie dans le royaume, et bien de la même façon, notre Sauveur nous représentait lorsqu'il vint ici-bas. Nous étions en lui dans sa marche souffrante, dans sa mort, dans sa résurrection, et aujourd'hui nous sommes toujours en lui, assis avec lui dans la gloire à la droite de Dieu le Père. Il nous a précédés, il est le premier-né d'entre les morts. Alors ne devrions-nous pas, ce matin, nous réjouir nous aussi d'un si grand salut ? Je vous invite à ce que nous le fassions, et particulièrement lors du moment de scène que nous prendrons dans quelques instants, que ce soit aussi pour nous l'occasion de nous souvenir et de nous réjouir de ce salut que nous a accordé notre Dieu. Mais nous pourrons le faire avant aussi, dans la prière. Oui, Éternel notre Dieu, nous te louons ce matin pour cette victoire de Christ préfigurée dans ce texte d'Esther. Nous te rendons grâce car nous nous sommes rappelés ce matin que tu nous as arrachés des griffes de Satan, de l'ennemi. Tu nous as emmenés avec toi comme des captifs, mais pas n'importe quel captif, des captifs aujourd'hui libérés du joug, de la condamnation sous laquelle ils se trouvaient, de la tristesse et de la mort du péché. Et nous sommes aujourd'hui, même si nous ne le voyons pas encore parfaitement, mais nous sommes réellement, spirituellement, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. C'est la raison pour laquelle nous pouvons venir par la prière devant toi. C'est la raison pour laquelle tu entends ces prières et que tu y réponds. Nous sommes souvenus ce matin que cet acte de condamnation, Seigneur, qui nous condamnait à mort pour l'éternité, Seigneur, a été cloué à la croix, définitivement. Il n'y a plus aucune condamnation, comme le dit Paul, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, nous te louons vraiment de ce que nous soyons ainsi libérés et de ce que, Seigneur, nous n'avons plus à subir les assauts de l'ennemi qui voudrait parfois nous faire croire que tu nous as abandonnés. Nous te prions pour ceux qui sont encore sous cette condamnation, sur qui la colère de Dieu pèse toujours, qui péché après péché ajoute un peu plus de cette colère sur leur vie, sur leur compte, qu'ils puissent, Seigneur, éclairés par toi, être conduits à la repentance et à la foi dans l'unique et seul Sauveur existant, Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Éternel, de ce que ce matin nous ayons pu regarder à toi un peu, te voir déjà dans la gloire, dans le ciel, à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et de ce que cette gloire éternelle signifie pour nous, que, Seigneur, nous sommes déjà en toi, mais de ce que nous la vivrons parfaitement un jour, de ce que nous avons un Sauveur qui est vivant, qui intercède pour nous, qui agit, et de ce que nous savons aussi que nous recevons jour après jour de lui tout ce dont nous avons besoin pour notre vie chrétienne. Ô Père, notre Dieu, pour un si grand salut, nous voulons te louer ce matin et te supplier afin que nous ne nous habituions pas à ce salut, afin que nous méditions aussi sur lui et de ce que nous puissions vraiment nous réjouir, Éternel, comme au premier jour, Seigneur, lorsque tu nous as appelés à toi. Accorde-nous vraiment cette grâce, personnellement et en Église. Nous remettons ces moments qui vont suivre, Seigneur, te demandant que tu continues de bénir ces instants de scène et la suite de ce culte. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.